Bien, alors, Marshall Béchalar, le grand sujet, donc, c'est la fin de la partie active de la sortie d'Égypte, la partie très matérielle. La dernière partie de la sortie d'Égypte, c'est Kabbalat HaTorah. Là, maintenant, on va passer la mer. Et l'autre grand sujet, c'est la manne, la nourriture que les Bnei Israël vont manger pendant 40 ans, finalement. C'est une nourriture qu'ils ont par le mérite de Moshe Rabbeinu, comme ils ont par le mérite de Myriam l'eau, et par celui d'Aaron les Anané Kavod. Ça commence un peu de façon un peu étrange, parce que la Torah nous dit tout de suite que quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, Hachem ne les conduit pas par le chemin le plus court, le plus direct. Et excusez-moi, je vais ouvrir la porte. Hachem ne nous a pas conduits par le chemin le plus court. Lo nacham Elokim, derech eretz plishtim, ki karovu, le chemin qui aurait été le plus court. Ki amar Elokim, pen inachem ha'am, birotam milchama, yeshavu misraima. Hachem craignait que les Bnei Israël, voyant qu'ils auraient dû affronter les Plishtim, donc contre lesquels, a priori, il va falloir faire la guerre, que les Bnei Israël aient peur et qu'ils décident de retourner en Égypte. C'est intéressant de voir que les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, mais Hachem pense que ils sont pas vraiment suffisamment fort pour affronter la situation, c'est-à-dire aller aussi directement que possible là où ils doivent y aller, ils doivent aller, pardon. Donc Hachem va leur faire prendre un détour. Le détour, c'est passer par le désert, ensuite on nous dit que on revient un petit peu en arrière et on dit que mon cher Abénou a pris les ossements de Yosef. Yosef, avant sa mort, il avait fait jurer au Bnei Israël que il aura donc précisé, Hachem va vous sortir d'Égypte et vous prendrez mes ossements et vous les enterrerez en Eretz Israël. C'est Moshe lui-même qui s'est occupé de récupérer les ossements de Yosef. Donc, Chazal disent que Paro, qui avait entendu cela et qui ne voulait pas que les ossements de Yosef quittent l'Égypte, il avait fait sceller le cercueil de Yosef au fond du Nil, et que donc Moshe l'a fait remonter ce cercueil. Alors, ce qui est important, c'est que quand il a fait remonter ce cercueil, il a utilisé une plaquette sur laquelle il avait écrit Allez, Chor, monte, taureau. Parce que taureau, c'est l'emblème de Yosef. Donc, il a ordonné à Yosef de monter, de se sortir de, je sais pas, de ce scellement au fond du Nil et de monter ce que le cercueil de Yosef a fait. Mais cette fameuse plaque d'or sur laquelle Moshe Rabbeinu avait écrit Allez, Chor, elle a été récupérée par quelqu'un. Et cette plaque d'or, elle a été jetée dans le chaudron dans lequel Aaron avait jeté tout l'or que les Bnei Israël avaient donné au moment où il avait, où Aaron avait collecté l'or pour en faire quelque chose. Et cette plaquette-là, elle a fait monter effectivement un chor. Le veau d'or, c'est ce fameux, cet ordre de Moshe Rabbeinu. Donc c'est d'une certaine manière, de façon indirecte, l'ordre de Moshe Rabbeinu qui a fait monter ce qui, pour les Bnei Israël, était le remplaçant de Moshe Rabbeinu. Il n'était pas au départ une idole. C'était le remplaçant de Moshe. Mais ça, on verra plus tard. Donc, ils ont pris ce fameux chemin. Ils ont été protégés avec, avec des nuées, etc., qui aplanissaient le chemin, qui les protégeait, etc. Et Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de faire un mouvement qui allait, semble-t-il, pas du tout dans le sens du déplacement des Bnei Israël. Et ce mouvement-là, qui était un mouvement qui ressemblait à un retour en Égypte, il a été signalé par les gens qui accompagnaient les Bnei Israël. Ça a été signalé à Paro. Et du coup, Paro, il a interprété ça comme un signe qui allait dans ce qu'il voulait, lui, à savoir que il voulait que les Bnei Israël reviennent. Et donc, il a mobilisé sa garde rapprochée, etc. Et ils sont partis pour aller ramener les Bnei Israël en Égypte. Ils ont poursuivi les Bnei Israël en Égypte. Hachem a renforcé le cœur de Paro pour qu'il ait vraiment le courage de faire ce qu'il était en train de faire, parce que Paro, il avait subi quand même les Makot, il y avait Makot Bechorot, etc. Il fallait oser s'attaquer aux Bnei Israël. Alors il a osé. Et donc il s'est approché. Et les Bnei Israël, quand ils ont vu ça, ils ont eu très très peur. Et évidemment, ils se sont tournés contre Moshe. Et ils lui ont fait le reproche en disant, est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de kvarim? Il n'y avait pas de tombes suffisamment, pas un nombre suffisamment de tombes en Égypte pour que tu nous aies pris à mourir, pour mourir dans le désert. Mazot, ainsi talan, qu'est-ce que tu nous as fait là de nous faire sortir d'Égypte? On t'avait dit que on préférait rester en Égypte plutôt que d'aller mourir dans le désert. Donc, tout de suite, c'est un mazot, qu'est-ce que tu nous as fait là? Vous remarquez que les reproches sont immédiatement adressés à Moshe Rabbeinu. Ils ont pas, ils se tournent pas contre Hachem pour lui demander qu'est-ce que tu nous as fait là. Pour eux, c'est Moshe, comme si c'était une initiative personnelle de Moshe. Moshe leur a dit, ne craignez rien, et il leur a dit, vous allez voir la façon dont Hachem va vous sauver. Et il leur a promis en quelque sorte. Il leur a dit, ce que vous voyez là devant vous, maintenant, cette Égypte qui a l'air d'être forte avec une armée et tout, l'Égypte, vous ne la verrez plus jamais devant vous de cette manière. Et il a annoncé Hachem ilachem lachem. Hachem va combattre pour vous contre les Égyptiens. Et que vous, qu'est-ce que vous devez faire? Kacharishoun. Taisez-vous. C'est-à-dire, il faut un silence. Et Moshe, lui, on va voir ça un peu plus en détail, mais Moshe Rabbeinu continue de prier. Et Hachem lui dit, mais pourquoi tu pries? Dis au Bnei Israël d'avancer. Et toi, tu vas lever ton bâton. Tu vas étendre ta main avec ce bâton sur la mer et tu vas fendre la mer. Et les Bnei Israël vont entrer dans la mer, bah, Yabasha, sur le sol sec. Et moi, je vais fortifier les Égyptiens. Ils sont en train de voir un truc incroyable. C'est de nouveau des manifestations comme celles qu'ils ont vues, ou encore plus puissantes que ce qu'ils avaient vu en Égypte. Il faut qu'ils aient le courage d'entrer dans la mer. Et là, ils vont se noyer. Et Hachem dit, enfin, je vais en finir avec l'Égypte. Alors, ça s'est passé comme ça, effectivement. Il y a eu une protection particulière, un arrangement des nuées de gloire, des nuées protectrices, etc. Moshe a fait ce qu'on lui a dit de faire, ce qu'Hachem lui a dit de faire. Et effectivement, la mer s'est démontée, quoi qu'elle s'est arrangée. La fin du Midrash dit qu'il y a eu donc 12 couloirs, un couloir pour chaque tribu, dans lequel ils ont passé la mer à pied sec. Et les Égyptiens ont suivi, sont entrés dans la mer. Et quand les Bnei Israël, qui étaient devant, ont terminé leur passage, Hachem a donné l'ordre à Moshe, de nouveau, tu étends ton bras avec ton bâton, etc. Et tu fais retomber les eaux. Et donc, ça va noyer les Égyptiens. Les Égyptiens sont effectivement, qui sont dans la mer, sont noyés. Donc, Hachem a sauvé les Bnei Israël à ce moment-là. Et le passouk dit, dans le passouk Lamed, Vayam Israël, et Mitzrayim met al Sfatayam. Les Bnei Israël ont vu les Égyptiens morts au bord de la mer. Et à ce moment-là, Vayam Israël et Ayad Agdola, Asher Asa Hashem Bemitzrayim, Vayiru. Et à ce moment-là, ils ont craint Hachem, ils ont eu Irat Hachem, et ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe, son serviteur. La confiance, malheureusement, ne va pas durer très longtemps. Mais comme vous voyez, le passouk nous dit que les Bnei Israël ont vu les Égyptiens au bord de la mer. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, n'y ont pas cru. Ils n'ont pas cru que les Égyptiens étaient noyés. Ils ont dit, nous, on est montés de ce côté-là, les Égyptiens sont montés de l'autre côté. C'est des gens qui sont en plein milieu d'un miracle. La mer s'est ouverte pour eux. Mais ils ne pensent pas que ça les a sauvés. Ils pensent que les Égyptiens sont vivants, ils sont un peu plus loin sur la rive. Donc Hachem a ordonné en quelque sorte à la mer de recracher les corps des Égyptiens pour que les Bnei Israël les voient. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont, comme dit le Passouk, Ils ont vu la grande main d'Hachem. Hachem a fait aux Égyptiens, et à ce moment-là seulement, ils ont eu Yirat Hachem. Jusque-là, malgré tout ce qui leur arrivait, la mer qui s'ouvre de façon intéressante devant eux quand ils a... Donc, tout ça ne les a pas impressionnés. Et donc, ils font confiance. Donc maintenant, ils sont, si vous voulez, ils sont de l'autre côté. Alors, il y a l'eau entre entre l'Égypte et eux. En plus, l'armée égyptienne est détruite. Mais il y a ils sont vraiment sortis d'Égypte, finalement. C'est la grande question. Ils ont assisté à 10 plaies, dont la dernière est extraordinaire. Et il n'est pas marqué là-bas qu'ils ont eu Emouna.
D'abord, de ces Égyptiens puissants, ces
Non,
dominateurs.
mais la question de Charlie, c'est que maintenant, après tout, ils vont maintenant avoir Emouna. Maintenant, mais la question qu'elle pose, c'est pourquoi ils n'ont pas d'Emouna, ils n'ont pas eu Emouna à la suite des 10 Makot. Ils ont vu 10 Makot, 10 changements radicaux dans le monde, pour eux, et en particulier la dernière plaie qui est la mort de tous les premiers-nés égyptiens, et que Pharaon est complètement. Il est complètement KO, Paro. Il supplie Moshe Rabbeinu de partir. Tout ça semble-t-il, ça ne les a pas suffisamment bouleversés pour créer une relation de confiance. Non, mais ils voient bien que eux, ils sont en train de boire de l'eau, et quand l'Égyptien leur demande de passe-moi ton verre, et on va boire ensemble, chacun prend une paille. Lui, l'Égyptien, il boit du sang, et le Ben Israël, il boit de l'eau. Alors, c'est possible, mais ça n'a marché que pendant une partie des Makot, parce que les Égyptiens, les magiciens ont dit à un moment donné à Pharaon, ils ont dit, là maintenant c'est plus de la magie, c'est pas possible, parce que il faut pour faire de la magie un certain volume. Là, quand ils étaient occupés avec des insectes ou des puces, des machins comme ça, ils ont dit, là on ne peut pas faire de magie dans ces conditions-là. Donc ils l'ont dit, c'est Ezba Elohim, c'est le Dieu d'Elohim, le doigt d'Elohim. Puis il faut que tu cèdes, ça veut dire. Donc tout le monde, même les grands spécialistes, lui ont dit, cède. Il n'a pas cédé. Et à la fin, le passage, il est quand même clairement dit que les gens ont bien compris, ils aimaient bien les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu était un grand personnage pour eux, parce qu'ils avaient bien compris que tout ce qui leur arrivait dans les dernières plaies, c'est arrivé à cause de Paro, et pas du tout. C'est pas Moshe qui leur a fait du mal, c'est Paro qui leur a fait du mal. Enfin, ils l'ont compris. Mais ça les a pas suffisamment bougés. Il faut dire cette chose qui est très très importante, c'est que là, sur le moment, ils sont bougés, mais ça va pas durer 3 jours. 3 jours plus tard, après tout ça, ils sont dans le désert, ils ont soif, il n'y a pas d'eau. Alors, c'est pas qu'ils demandent, ils disent pas, moi aussi, on a soif, on voudrait de l'eau. Tout de suite, commence les récriminations avec lesquelles on va devoir vivre pendant assez longtemps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire à Moshe, c'est pas possible. Mais là, il y a une petite différence, c'est que dans le verset Kafdalet, verset 24, Pasuk dit, Vaïlonu ha'am al Moshe lemor manishte, Vaïtsak el Hashem. Et donc, devant eux, ils ont dit à Moshe, mais qu'est-ce qu'on n'a rien à voir, quoi. Et Moshe, devant eux, il a prié. Et Hachem a montré à Moshe un bois qui permettait d'adoucir l'eau. Et donc, à ce moment-là, bon, on va voir tout de suite les suites de cela. Mais ça veut dire, tout de suite, ils n'ont pas de patience. Ils se retournent tout de suite en maugréant. J'ai sauté ce qui s'est passé après que le Passouk nous ait dit qu'ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe. Et à ce moment-là, il y a la Shira. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël vont chanter. C'est la première fois que ça chante, hein, dans la Torah. Et donc, ça veut dire que ils ont exprimé leur reconnaissance à Hachem. Et ici, ça a pris la forme d'un chant. Alors, la vérité, quand on parle d'un chant ici, ce n'est pas obligatoirement musical. D'accord? Un chant, ça peut être un poème. Alors, même si on dit que, OK, disons que c'est devenu musical, ça veut dire que l'expression, elle a pris la forme la plus expressive. C'est-à-dire que quand vous remerciez et que vous donnez à la parole de remerciement une forme un peu plus sophistiquée, donc là, vous en avez fait quelque chose, ça donne plus d'importance. Si en plus on ajoute de la musique, c'est encore plus important. Donc, si vous voulez, c'est la forme la plus élaborée de la parole. Bon, c'est-à-dire, c'est ça qu'ils ont choisi pour exprimer leur reconnaissance. Alors, dans cette Shira, il y a bien sûr une louange adressée à Hachem. Il y a la mention des différents miracles et puis l'impact que ce miracle a eu sur les peuples, comme on dit, y compris les peuples cananéens et les autres. Et ça parle du futur, ça va parler même du Mikdash, etc., la résidence d'Hachem. Et là, il y a dans cette Shira, comme c'est la forme la plus élaborée, il y a encore quelque chose de particulier dans ce chant qui s'exprime dans les premiers mots qui sont utilisés pour parler de ce chant. C'est pas dans les paroles du chant, mais c'est dans la présentation du chant. Quand le passouk commence, Az yashir Moshe uvnei Israël tashira azot l'Hashem vayomru les morts. Voilà. À ce moment-là, après cette phrase-là, va commencer le chant lui-même. Mais ce chant, il est introduit par une phrase qui raconte que Moshe et les Bnei Israël ont chanté. Et le premier mot qui est utilisé, c'est ce mot de Az. Alors, il y a beaucoup de choses évidemment qu'on a à dire sur ce mot as, qui veut dire a priori, alors, à ce moment-là. Alors d'abord, il est écrit avec un Aleph et un Zayn. Et donc la tentation, elle est immédiate, quoi. Aleph plus Zayn, ça fait 1 plus 7, ça fait 8. Et 8, d'après le Maharal, c'est toujours une indication de ce qu'on parle ici de quelque chose qui est au-delà du temps. On est dans le huitième jour, dans le jour de la Mila, le jour de Shmini Atzeret, etc. C'est Olam Haba, d'après le Maharal, 8. Mais en plus, le Az, a priori, il fait référence au passé, au présent immédiat, au passé immédiat, pardon, mais le verbe est au futur. Yachir, Moshe. On aurait dû dire char. Moshe a chanté. La Torah raconte que Moshe a chanté. Mais le texte ici dit que Moshe chantera. Pardon? Oui, si il y a quelque chose qui ne va pas. Si As veut dire dans le passé ou dans le présent, il chantera. Alors, certains vont dire que ça veut dire que quand ils ont vu le miracle, ils ont compris, ça va chanter. Parce que quand on dit qu'ils ont chanté, c'est pas ils ont décidé de chanter. Ça a chanté tout seul. Ouais. D'accord? C'est sorti tout seul. Le chant en question n'est pas un chant, ils ont décidé de le chanter. À la limite, c'est un chant qui a éclaté. C'est un chant qui s'est, ça s'est exprimé. Quelque chose s'est exprimé en eux sous forme d'un chant. Et curieusement, y a plusieurs explications pour savoir comment s'est déroulé le chant. Est-ce que les Bnei Israël vont chanter un refrain seulement, mais les paroles vont être de Moshe, ou est-ce que les Bnei Israël vont tout chanter, les paroles et le refrain, en fait? Et comme ils ne s'étaient pas mis d'accord, ça veut dire que tout le monde était sur la même longueur d'onde pour chanter tous en même temps. Alors ils ont été changés. Oui, on change complètement d'état. Quand on a confiance en Hachem. La confiance en Hachem, ce n'est pas un état passager, c'est un état qui vous bouleverse complètement. Et le but de l'exercice, ce serait d'arriver à rester dans cet état-là. Donc, ils ont chanté cela. Et puis ensuite, on nous dit que quand ils ont terminé de chanter, alors le passouk dit, Vatikach Myriam, passouk Kaf, Vatikach Myriam Hanviya, on nous dit ici que Myriam était une prophétesse. Alors, vous vous souvenez que Myriam a prophétisé, c'est elle qui a prophétisé que si ses parents se remariaient, sa mère aurait un enfant, que l'enfant serait le sauveur du clan d'Israël. Elle est d'abord Nevia. Nevia, alors qu'elle est encore très très jeune. Et on peut dire que le fait qu'on dise par la suite qu'elle était achot à Aaron, la sœur d'Aaron, et Chazal demande, mais elle est aussi la sœur de Moshe. Pourquoi on dit seulement qu'elle est la sœur d'Aaron? Alors on peut dire qu'elle était prophétesse alors qu'elle n'était que la sœur d'Aaron. Mon chien n'était même pas encore né à ce moment-là. Mais elle a pris son tambourin, elle a entraîné avec elle toutes les femmes qui étaient là avec des instruments de musique. La question qui se pose, c'est, on a affaire à des gens qui sont partis en catastrophe. D'où est-ce qu'elles ont des instruments de musique? D'où est-ce que ça vient? Alors, Chazal vont dire que les femmes ont compris qu'il se passait quelque chose de très très grand. Elles ont prévu cela. Elles ont prévu que il y aurait lieu de faire de la musique, quoi. C'est-à-dire, c'est encore une indication supplémentaire du fait que les femmes avaient une grande confiance. Ce sont elles qui avaient encore confiance quand tout allait mal en Égypte, etc. Elles étaient quand même encore vaillantes et encore, elles ont donné du courage à leur mari, etc. Et là, ici, on dit qu'elles ont compris que cette sortie d'Égypte, elle méritait qu'à un moment donné, il y ait de la musique. Elle a entraîné les femmes. Elles ont repris le même chant que celui que Moshe Rabbeinu et les hommes avaient chanté. Mais quand le Passouk raconte cela, alors il dit que Vata'an la'em Myriam, Shiru l'Hashem ki gaoga, sous le programme Myriam, ça c'est la même chose. Chanter pour Hashem. C'est-à-dire, elle leur a dit chanter. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont chanté comme les hommes ont chanté avec Moshe.
Ce chant d'état et ce chant est sorti, c'est pas leur conscience qui a chanté. Ce chant, ils étaient dans un état où ce chant sortait, les femmes étaient dans ce même état.
Oui, mais elles étaient dans le même état, simplement elles ont quelque part, c'est pas que elles étaient elles déjà plus actives dans le chant. Aussi ça chantait en elles, mais elles étaient plus actives. Chanter, il leur a dit. Elle leur a dit. Oui, elles ont attendu que les autres aient chanté. Donc peut-être elles se sont retenues de chanter. Elles n'ont chanté que plus tard. Parce qu'elles ne voulaient pas chanter en même temps que les hommes, disons. Et elles ont. C'est une autre façon de chanter, en quelque sorte. Elle s'est pas remis, on chantera quelque part. Non, non, on chante tout de suite, quoi. Chirou, chantons maintenant.
Justement, parce que j'étais avec les hommes. C'est comme si là.
Elles chantent maintenant, elles comprennent qu'il faut chanter maintenant. Eux, on va l'expliquer comme on peut, mais eux, ils ont dit on chantera. Eux, ils parlent d'un futur, les hommes, ils sont pas encore. Ça sort qu'on va chanter. Az-Yashir, on chantera dans le futur. Alors, bien sûr, on va expliquer qu'ils ont chanté tout de suite et qu'il y a une référence future, mais la forme n'est pas la même. Elle chante tout de suite, elle réalise tout de suite la situation. Il manque rien. Elles sont capables de chanter maintenant. Il n'est pas nécessaire d'avoir encore plus de choses. Et donc, finalement, ils sont partis. Moshe a dû. Passouk dit, Vayasa Moshe Israël mi Yamsouf. Moshe Rabbeinu a fait partir les Bnei Israël de la mer. Il restait au bord de la mer. Il restait au bord de la mer. Pourquoi il a fallu les exhorter pour qu'ils partent vraiment? Alors, Chazal disent, Rachid le rapporte, que les Égyptiens, quand ils étaient partis à la poursuite d'Ebné Israël, ils étaient partis, c'est la garde rapprochée, ils étaient partis avec leurs bijoux, avec toutes sortes de trésors, etc., qu'ils avaient sur leur char. Et tout ça, c'était là. Donc, les Bnei Israël, ils ont ramassé un fabuleux butin à ce moment-là. Donc, ils ne voulaient pas partir parce qu'il y avait encore des choses à ramasser. Ça, c'est une explication. Donc, ils sont occupés à faire fortune. Donc, ils voulaient pas partir. Il a fallu les y obliger en quelque sorte. On ramène ici une autre explication. Le Zohar, il dit que les Bnei Israël qui avaient assisté à cette manifestation de la toute-puissance d'Hachem, ils étaient à un niveau de prophétie très élevé et ils ne voulaient pas quitter ce niveau de prophétie en quelque sorte. Et donc, il a fallu que Hachem disparaisse de cette situation-là et qu'il aille ailleurs pour que les Bnei Israël le retrouvent ailleurs. Il fallait les faire partir en leur faisant prendre conscience qu'il n'y avait plus de présence d'Hachem. Donc leur niveau, de toute manière, ils ne pouvaient pas le conserver. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? L'eau Matsumaï. 3 jours dans le désert, on n'a pas trouvé d'eau. Il y a un Kliyakar qui explique que quand les Bnei Israël étaient occupés à faire fortune, quoi, à ramasser l'or et l'argent, ils étaient tellement occupés qu'ils ont négligé l'étude de la Torah et qu'ils ont été sanctionnés par un manque d'eau. L'eau est toujours comparée à la Torah, par un manque d'eau physique. Et c'est ce qui s'est passé là. Et alors, à cet endroit-là où ils ont eu la sanction de ce manque d'étude de la Torah, il a fallu tout de suite compenser en quelque sorte. Et à ce moment-là, cet endroit s'appelle Mara, c'est-à-dire l'endroit qui s'appelle amer. Parce que l'eau était amère. Et quand Moshe a adouci l'eau, ils ont pu boire, effectivement. Et le passouk dit, dans le même passouk qui dit qu'effectivement l'eau a été adoucie, donc ils ont pu boire, Sham sam lo chok mishpat, Sham nisaou. Alors, le passouk dit ici qu'à cet endroit-là, les Bnei Israël ont reçu, Hachem leur a imposé, on va lire comme leur traduction, leur a imposé un décret, une loi, et là-bas, ils ont été mis à l'épreuve. Alors, on va apprendre que cette loi qu'ils ont reçue à cet endroit-là, c'est ils ont reçu des mitzvot très importantes comme Shabbat, comme Kibboud Av V'Em, comme Parah Aduma, la procédure de purification du contact avec un mort, etc. Ils ont reçu une dizaine de mitzvot à cet endroit-là. C'est très important parce que Ça veut dire que quand les Bnei Israël vont arriver au Sinaï, et qu'au Sinaï, ils vont recevoir les 613 mitzvot, au fond, ce qu'ils reçoivent au Sinaï, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils ont déjà reçu des mitzvot, un mara, ici. Finalement, bon, il y en a beaucoup plus, etc. Mais qu'est-ce qui va donc. Alors, c'est quoi qui s'est vraiment passé au Sinaï? Si ce n'est pas le don des mitzvot, qui n'était pas une nouveauté, finalement. C'est qu'en fait, ils ont changé de statut. Au Sinaï, les Bnei Israël vont devenir, comme on dit, metsuvim. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on leur propose des mitzvot, on leur donne des mitzvot, mais ils les font parce qu'ils veulent bien les faire. Maintenant, au Sinaï, ils vont entrer dans un brit, dans une alliance. Et cette alliance, elle va leur imposer des mitzvot. Alors qu'ici, ils ont reçu des mitzvot, mais elles ne sont pas imposées. Comme si on leur dévoilait des mitzvot, mais que, évidemment, on leur conseille de les faire, mais ils ne sont pas obligés de les faire. Le changement de statut, de devenir obligé, pratiquer les mitzvot, ça va être la spécificité du Sinaï, du don de la Torah au Sinaï. Donc on a réglé le problème de l'eau, ici. Bien, ils avancent. Et de nouveau, il se passe quelque chose. Le pasouk dit, Vayalinu kol adat ben Israël al Moshe va la Aaron bamidbar. De nouveau, là maintenant, il proteste contre. Il murmure contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron. Et ils disent, on aurait bien voulu mourir en Égypte, alors que en Égypte, on était assis près de la marmite de viande, on mangeait du pain à satiété. Et vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous tuer, nous et toute l'assemblée, en fait. Vous avez amené pour mourir ici, mourir de faim. Donc, la confiance, est limitée. Et la réponse de Moshe, alors en fait, on nous dit pas que Moshe a prié, etc. On a tout de suite dans le texte la réponse d'Hachem à Moshe. Hachem leur dit à Moshe, voilà, je vais faire pleuvoir sur vous, en fait, pour vous. Du pain. Il va faire pleuvoir du pain. Un pain particulier. Lechem min hashamayim. Un pain du ciel. Et le peuple va aller, il va sortir de son camp, et ils vont aller récolter quotidiennement, la ration du jour, chaque jour, et avec cette façon de leur donner à manger, je vais les tester. Je vais les tester pour savoir est-ce que ils vont suivre ma Torah ou non. Alors il tombe de le pain du ciel. Et puis, Bayoma Shishi. Et le sixième jour, Hachem leur dit, quand vous allez préparer ce que vous avez ramené de votre récolte de ce pain du ciel, eh bien, vous verrez que vous en avez obtenu une double action, une double ration. Alors, Moshe et Aaron leur ont dit, ce soir, il va y avoir donc, ce soir, vous allez savoir que Hachem vous a sorti d'Égypte. Au Boker et le matin, vous verrez la gloire divine. Il entendra vos plaintes contre lui, donc contre Hachem. Et les plaintes sont vraiment contre Hachem et pas contre nous, parce que nous, qui sommes-nous? Que sommes-nous? Man, nachnu ma, qu'est-ce que nous sommes? Titalinu alenu, pour que vous provoquiez, vous murmuriez contre nous. Hachem, le soir, Hachem vous donnera de la viande à manger et du pain le matin. Et ça, Lisboa, vous en aurez à satiété. Quand Hachem écoutera vos plaintes, a entendu vos plaintes, et celles que vous élevez contre lui en réalité, et nous, on n'est rien, c'est pas contre nous que vos plaintes sont, elles sont contre Hachem. Moshe a dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des Bnei Israël, approchez devant Hachem. Il a entendu vos plaintes. Et quand Aaron a parlé, comme Moshe lui avait dit, à toute l'assemblée, les gens se sont tournés vers le désert. Veine, et voici, d'ailleurs, façon complètement inattendue, Kvod Hashem nira be'anan. La gloire divine est apparue dans un nuage. Et Hachem dit à Moshe, j'ai entendu les plaintes des Bnei Israël. Dis-leur la chose suivante. Dis-leur que l'après-midi, vous allez manger de la viande. Et au matin, vous serez rassasié de pain et vous saurez que je suis Hachem, votre Dieu. Je vous rappelle que quand Hachem dit Ani Hachem, ça veut dire on peut me faire confiance. Je suis votre Dieu. Et le soir, il y a eu des cailles qui ont recouvert tout le camp. Et le matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Et cette couche de rosée, elle est montée, elle s'est évaporée. Et il y avait, à Pnéa Midbar, il y avait sur le sol du désert, il y avait une couche fine. Très très fine. Il était Kikfor à la Arès, comme du givre sur la terre. Et les Bnei Israël, quand ils ont vu ça, Vayomru, Ish el Achiv, ils se sont dit les uns aux autres, Manhu, qu'est-ce que c'est? Iloyadu, Mahu. Ils ne savaient pas ce que c'était. Alors Moshe leur a dit, ça c'est le pain qu'Hachem vous a donné pour que vous le mangiez. Et voici l'ordre qui accompagne ce pain. Vous allez en ramasser exactement combien vous en avez besoin, c'est-à-dire omer la goulgoulette, un omer par tête, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans votre famille, dans votre tente. Et ils ont fait cela. Et chacun a ramassé, les uns plus, les uns moins, en fonction évidemment de leur famille. Et ils ont mesuré, ils comparaient donc avec le homer, et ils se sont aperçus que ceux qui en avaient pris beaucoup, ben, ils n'en avaient pas trop. Et ceux qui en avaient pris moins, ils n'en manquaient pas. Chacun, sans le vouloir, ils avaient pris exactement la quantité dont ils avaient vraiment besoin. Et Hachem et Moshe a dit, n'en laissez pas. Ne faites pas de réserve, donc. N'en laissez pas jusqu'au matin. Bien entendu, il y en a qui en ont laissé. Ils en ont laissé, mais à ce moment-là, il y a eu des vers. Ils ne pouvaient pas le manger. Et Moshe s'est mis en colère contre eux. Et donc, un matin après l'autre, chacun, il a ramassé exactement ce dont il avait besoin. Et quand le soleil, était levé, il a fait fondre, cette manne. Et bien, Yom HaShishi est le sixième jour, Erev Shabbat. Ils ont ramassé du pain, mais il y avait une double mesure. Deux homers par personne. Et donc les chefs des tribus sont venus le dire à Moshe. Alors Moshe leur a dit, c'est ce qu'Hachem a dit, ça sera un Shabbat saint pour Hachem demain. Et donc aujourd'hui, boulangez ce que vous voulez boulanger. Cuisez ce que vous voulez cuire. Et vous pouvez en laisser pour le lendemain, parce que c'est Shabbat. Ils en ont laissé, comme Moshe l'avait dit. Et là, pour le coup, cette fois-ci, ça n'a pas, il n'y avait pas de verre. Et Moshe leur a dit, aujourd'hui, vous pouvez manger ce que vous avez laissé. C'est Shabbat. Aujourd'hui, vous n'allez pas sortir pour en ramasser. Pendant 6 jours, vous allez ramasser. Le septième jour, c'est Shabbat, il n'y en aura pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, vous n'avez pas besoin de lire le prochain verset. Il y en a qui sont sortis pour ramasser, et ils n'ont évidemment pas trouvé. Hachem avait dit, la nourriture que je leur envoie, c'est un test. Donc visiblement, ils n'ont pas réussi le test. Alors Hachem dit à Moshe, Adana me'antem, nishmor mitzvotai. Jusqu'à quand est-ce que vous refuserez de garder, d'observer mes mitzvot et mes enseignements, mes torahs? Regardez, Hachem vous a donné le Shabbat, donc pour cette raison, ben, il vous en a donné vendredi une double part. Donc le Shabbat, vous ne sortez pas pour ramasser. Chacun reste où il est, on ne quitte pas sa place le jour du Shabbat. C'est de là qu'on apprend le issur du Troum Shabbat. On ne peut pas sortir de. Et le peuple s'est reposé effectivement le septième jour. Alors les Bnei Israël, Beit Israël, ont appelé ce truc-là qu'ils mangeaient, ils l'ont appelé man. Alors on dit comment c'était, Zera Gad Lavan, et Taamo Sapichat Bidvash. C'est-à-dire, en fait, c'était comme de la graine de coriandre blanche, et le goût, c'était le goût d'un gâteau frit au miel. Alors, Moshe a dit, voilà ce qu'Hachem a dit. On va mettre un homer de cette manne en dépôt pour toutes les générations, pour que les gens sachent. Le pain que je vous ai donné à manger dans le désert quand je vous ai sorti d'Égypte. Et Moshe a dit à Aaron, tu prends effectivement une urne et tu y mets un homer de manne. Et tu le mets de côté devant Hachem en dépôt pour toutes les générations. Et évidemment, Aaron a fait ce que Hachem lui avait ordonné de faire par l'entremise de Moshe. Et on l'oublie tout de suite. Donc ça, c'est un scoop, en fait. Il dit que les Bnei Israël, ils vont manger de la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Eretz Israël. À ce moment-là, le voyage ne devait pas durer 40 ans. 40 ans, c'est qui a été décidé après l'histoire des explorateurs. On n'a pas encore eu cet épisode-là. On nous dit que un homer, c'est un dixième de Hefa. Bon, ça nous donne la quantité. Et ça recommence. Les Bnei Israël ont quitté le désert de Tsin, d'où ils étaient. Sur l'ordre d'Hachem, ils se déplacent sur l'ordre d'Hachem. Ils arrivent à un endroit qui s'appelle Refidim. Il n'y a pas d'eau pour le peuple. À boire. Le peuple, évidemment. Ils se disputent avec Moshe et ils disent, donnez-nous de l'eau qu'on boive. Alors Moshe dit, mais pourquoi vous vous battez avec moi? Pourquoi est-ce que vous mettez Hachem à l'épreuve? On ressort le même refrain. Ils ont eu soif. Le peuple est allé chez Moshe. Contre lui, Lama ze elitanu mimitsraim, pourquoi est-ce que tu nous as fait monter d'Égypte pour nous tuer, nous et nos enfants et tous nos troupeaux? On va mourir de soif. Moshe a imploré Hachem en disant, qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple? Pour un peu, il m'aurait lapidé. Hachem lui a dit, tu vas passer devant moi, en fait. Ah ben, tu vas passer d'abord devant le peuple, tu vas prendre avec toi des anciens Voilà ton bâton, le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. C'est intéressant parce que c'est pas Moshe qui a frappé le Nil. C'est Aaron qui a frappé le Nil. Bon, ici, c'est marqué que tu prendras le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. C'est le bâton avec lequel on, c'est-à-dire Aaron a frappé le Nil. Sur l'ordre de Moshe, mais c'est pas lui qui l'a frappé. Et voilà, moi, je serais sur le rocher, près du rocher, donc, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Ce que Moshe a fait aux yeux de tous les anciens d'Israël. Et on a appelé cet endroit Massa Umriba. On a appelé cet endroit Massa et Meriva. Parce que dans Meriva, il y a Riv et la dispute, la querelle des Bnei Israël. Et le fait que Massa, Nasotam est Hachem les morts. Parce qu'ils ont, c'est eux qui ont mis Hachem en question, qui ont éprouvé Hachem en disant, est-ce que Hachem est parmi nous ou pas? Alors ici arrive Amalek. Arrive Amalek, on ne sait pas pourquoi, ouais. Il arrive à Amalek. Vaïlachem im Israël ber Philippe. Et il fait la guerre contre Israël à Rephidim. Alors Hachem dit à Moshe, d'abord c'est Moshe dit directement, excusez-moi, Moshe dit directement à Yoshua, choisis-nous des gens et tu vas faire la guerre contre Amalek demain. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton d'Elohim dans ma main. Yoshua fait ce que Moshe lui a dit pour aller faire la guerre contre Amalek. Et Moshe, Aaron et Hur sont montés sur la colline. Et quand Moshe levait ses mains, c'est-à-dire que le peuple voyait que Moshe levait ses mains en signe de prière, en fait. Alors Israël gagnait. Et quand Moshe rabaissait ses mains, c'est Amalek qui gagnait. Là, on voit de nouveau cette idée que il n'y a pas de... Immédiatement, il baisse les bras. Normalement, ce serait attendu qu'il reste un peu sur la lancée de ce qu'ils avaient vu avec les bras avant qui étaient en haut, ils vont continuer de gagner normalement. Non. Ça veut dire, dès qu'ils ne voyaient plus les mains de Moshe en hauteur, immédiatement, le moral tombait, ils n'avaient plus confiance. Et donc Amalek gagnait. Et comme c'était difficile pour Moshe de garder les bras en permanence vers le haut, alors on a pris une pierre. Et lui, s'est assis sur la pierre. Donc, il était en surplomb. Et Aaron et Hur ont tenu les bras de Moshe en passant sous les bras. Ils ont tenu les bras de Moshe élevés vers le ciel, quoi. Aaron et Hur, c'est le fils de Myriam. Eux, ils ont tenu ses bras. Un de chaque côté. Et donc, les mains de Moshe étaient en prière, en quelque sorte. C'était un signe de confiance jusqu'à ce que le soleil se couche. Et donc, Yoshua a gagné la bataille contre Amalek et son peuple. Le Ficharef, c'est-à-dire une bataille, une vraie bataille avec des armes. Alors Hachem a dit à Moshe, écris cela en souvenir dans le livre. Et tu le raconteras aussi à Yoshua. Ce que je veux qu'on écrive, c'est que j'effacerai, il y a une redondance, Macho emche, effacer, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, c'est-à-dire je ferai disparaître le souvenir d'Amalek complètement. Et là, Moshe Rabbeinu a construit un misbéach, il a appelé l'autel Hachem Nissi. Hachem est mon miracle. Il a dit qu'il y a dalkeska milchama Hachem b'Amalek midordor. Il dit parce que la main est sur le trône d'Hachem. Hachem mène une guerre contre Amalek de génération en génération. En quelque sorte, si Hachem met sa main sur le trône, c'est une façon de jurer. Je vous avais dit, il y a des façons de jurer avec où on peut faire quelque chose qui donne encore plus de poids au serment. Quand on jure sur quelque chose qu'on a dit, c'est pour donner plus de poids à la parole. Alors, par exemple, quand on jure en tenant un Sefer Torah, ça donne encore plus de poids à la parole que simplement d'avoir juré. C'est ce que font Abraham et Yaakov quand ils demandent à Eliezer, respectivement à Yosef, de jurer Eliezer qui prendra pas une cananéenne pour son fils et Yaakov que Yosef l'enterrera en Israël, leur dit, mets ta main sous ma hanche, ça veut dire qu'ils vont saisir le seul objet de mitzvah qu'il y avait à ce moment-là, c'était la Mila. Et donc, pour donner le poids maximum au serment qu'il a fait, qu'il leur demande de faire. Donc, on a donc cette fois-ci directement ce fameux problème d'Amalek. Alors, on n'a aucune, y a aucune indication sur le, dans la Torah sur le, pourquoi Amalek vient et il attaque. Alors, il attaque à un endroit qui joue un rôle important, l'endroit s'appelle Rephidim. Et Rephidim, ça peut s'entendre Rafou Yadam, ça veut dire leurs mains tenaient de façon faible. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne tenaient pas vraiment la Torah. C'est-à-dire, Chazal vont l'exprimer en disant, vous vous souvenez, les Bnei Israël, quand ils avançaient dans le désert, ils avaient des nuées qui les entouraient, qui les protégeaient. Ce qui fait que personne ne pouvait les attaquer. Mais il y a des gens qui ont eu envie de sortir de la nuée. Ils ont voulu respirer, quoi. Ils ne voulaient pas. C'est une façon de dire, prendre un peu de liberté par rapport à l'étude de la Torah, en tout cas. C'est parce qu'il y avait ces gens qui étaient en dehors de la nuée. Puis Amalek qui a vu, ah, il y a des gens qui sont en dehors, on peut attaquer donc. Donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était à l'affût et qui, dès qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui est attaquable, il attaque. Il ne pouvait pas attaquer quand il y avait des nuées tout autour, ça passe pas. Mais dès qu'il y a eu des gens plus faibles, alors il a pu attaquer et il a attaqué. Et Amalek, qui c'est ce brave Amalek? Amalek, c'est le fils d'Eliphaz et d'une femme dont on ne connaît pas grand-chose. C'est une femme dont on sait surtout, on nous dit qu'elle est la sœur de, ouais, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur son frère. Mais d'elle, on sait qu'elle a à toute force voulu entrer dans le clan d'Israël et que pour des raisons que personne ne connaît, personne n'a voulu l'accepter. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, qui a accepté à peu près tout le monde, elle, il ne l'a pas accepté. Elle a essayé chez Yitzhak, ça n'a pas marché. Même Esav ne la voulait pas. Il l'a acceptée seulement comme concubine de son fils Eliphaz. Et donc, elle est la concubine d'Eliphaz. Et Eliphaz, qui est donc le fils aîné d'Esav, et de Timna, cette femme, ont eu un enfant qui s'appelle Amalek. Et cet Amalek, il est donc la pointe avancée de Esav. Donc, la raison pour laquelle il l'attaque, c'est parce qu'il est Esav. Parce qu'il est Esav puissance 15. Il attaque par principe. Il est contre Yaakov. Contre les descendants d'Yaakov. Lui est un descendant d'Esav. Et il est, par définition, en guerre contre les descendants de Yaakov. Et donc, visiblement, ce qu'on voit ici, c'est qu'il se nourrit de la faiblesse d'Israël. En fait, il attaque, il n'a rien à gagner. Hein. S'il avait gagné, qu'est-ce qu'il aurait gagné? Il n'y a pas de territoire. Les Bnei Israël n'ont pas de territoire. Qu'est-ce qu'il va gagner? Pas grand-chose. Mais il attaque pour le principe. Alors, en fait, dans la Shira, dans le cantique, je vous ai dit, on a dit beaucoup de choses, et en particulier, on a dit l'impact qu'avait eu cette sortie d'Égypte plus le passage de la mer sur les peuples. Et donc, on nous dit, les peuples ont été quasiment paralysés. Donc, les Bnei Israël, si vous voulez, ils avaient une espèce de promenade de santé. Personne ne pouvait les attaquer. Et ça, c'était insupportable. Donc, Amalek, il va attaquer. Et de Chazal, on voit que Amalek savait pertinemment qu'il n'allait pas gagner. Il a attaqué pour montrer qu'Israël était attaquable. Chazal prend le fameux exemple de la baignoire remplie d'eau bouillante. Il a sauté dans la baignoire. Il s'est ébouillanté, mais il a refroidi la baignoire. Il a montré que c'était attaquable. On pouvait entrer dans la ville. Ça brûle, mais on peut entrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce n'est pas tout Israël qui est descendu. C'est une partie des gens qui sont sortis de. Tout le monde est. Tout Israël n'est pas sorti de la bulle en question. Il y a une partie des gens qui sont sortis de la bulle. Mais qu'il y ait eu dans le clan d'Israël une partie des gens qui pouvaient descendre, ça veut dire que globalement, le clan d'Israël a dû descendre. Non, je crois pas. C'est pas. Enfin, dans Chazal, on ne voit pas que c'est un problème de rupture de l'unité. Au contraire, enfin, on pourrait presque dire que si c'était complètement coupé du clan d'Israël, ben, ils auraient peut-être été attaqués, mais bon, pas le clan d'Israël. Eux, ils ont été mangés. Ils auraient été mangés. Mais les Bnei Israël qui sont devant la porte, quelque part, ça ouvre. Tout le clan d'Israël est attaqué parce que la porte est ouverte. Parce qu'ils sont dans l'embrasure de la porte, ils sont devant et à l'intérieur, ils sont en train de. Ils circulent, ils sortent. Donc, il y a une ouverture. Et donc, quelque part, il y a une ouverture sur le clan d'Israël que Amalek ne va pas rater. Non, il a tué personne, en fait. On ne parle pas des morts. Il n'y a pas de morts, a priori, là. Mais. Pardon? On ne nous dit pas du tout. Ils ont fait la guerre, On ne parle pas d'éventuelle mort, mais Israël est attaquable.
Israël est attaquable. Israël est mortel, finalement.
Et quoi?
S'ils attaquent et qu'Israël n'est pas touché, puisqu'il n'y a pas de mort,
Mais ils ont été touchés, ils ont été attaqués.
ils attaquent, il n'y a pas de mort. Donc s'il n'y a pas de mort, il y a...
Ah, c'est pas comme ça. Si Israël doit faire la guerre, les Israël vont devoir se salir les mains avec la guerre. Ils deviennent un peuple comme les autres. Fait la guerre.
notion qui repose.
Non, c'est pas celle-là. Ce que nous reproche, c'est la conquête avec Yoshua. Parce que là-bas, on a massacré les gens.
Alors, en fait, la conquête avec les joueurs, c'est un cercle qui est compétitif.
Pardon, pardon, le.
La conquête, à la fois, c'est le droit. C'est-à-dire que ça de 40 familles qui ont été.
Oui, alors ça c'est un peu différent. Là-bas, enfin, la question que j'ai, à laquelle je ne sais pas répondre d'ailleurs, c'est je ne sais pas, est-ce qu'il aurait fallu une guerre pareille si on était entré en Israël 40 ans plus tôt? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est désagréable, c'est le fait que on entend ici que dans l'histoire de Yoshua, que s'il reste des idolâtres, ben nous on va se casser la figure, c'est eux qui vont gagner. C'est insupportable. Comment la Torah n'est pas plus forte que les idolâtres? Les Bnei Israël vont céder? On ne va pas céder. Non, c'est sûr que. Et d'ailleurs, certains disent. C'est parce que bon, on a éradiqué quasiment tout le monde, il y a toujours des gens qui sont restés, il restait les traces d'idolâtrie, et ultimement, 400 ans plus tard, c'est ça qui a détruit le Beth-Amikdash. L'idolâtrie. Parce que l'environnement était idolâtre, tout ce que vous voulez, mais là, il y avait à l'intérieur un peu de ver dans le fruit, et donc, il y a eu des problèmes. C'est nous qui générons la faiblesse d'Israël. On voit ici avec ce qu'Hachem a montré à tout le monde quand il intervient pour Israël, les peuples auraient dû rester paralysés. Et ils sont restés paralysés, c'est ce qu'on dit dans la Shira. Mais Amalek, non. Pourquoi tout à coup Amalek il attaque? Hazal disent parce que Refidim, parce qu'ils sont arrivés à un endroit qui probablement s'appelait pas Refidim, mais qu'on a appelé Refidim par référence au fait que Rafou Yadam et la Torah. En fait, ils ont tenu la Torah de façon très lâche, et donc ils n'ont pas vraiment tenu, et donc ils étaient attaquables. Alors c'est quand même c'est des gens qui ont une nourriture céleste. Donc la nourriture qu'ils mangent, c'est une nourriture des anges, je crois, quasiment. Alors, ils mangent aussi de la viande quand ils veulent de la viande. Ils ont aussi de la viande qui vient, elle aussi, du ciel. Alors, c'est pas vraiment de la viande. C'est appelé bassar, mais c'est de la volaille. Alors, on sait bien que la volaille, c'est pas vraiment de la viande. Mais voilà, on va s'arrêter là.